Bonsoir à toutes et à tous, il est 21h à Paris, le moment de retrouver votre journal en français facile.
Aurélien Devernoy.
Pour m'accompagner dans cette édition, Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Aurélien, bonsoir à toutes et à tous.
L'Europe continue de se barricader, de s'enfermer face à la deuxième vague de Covid-19. Un couvre-feu nocturne vient de débuter ce soir en Grèce, alors que les nouvelles contaminations restent très importantes en Italie, au Royaume-Uni et en France.
La France qui commémore ce vendredi les 5 ans des attaques terroristes qui ont endeuillé Paris. Le procès des auteurs et complices doit s'ouvrir en septembre 2021.
Nous reviendrons également sur la mort du dirigeant djihadiste malien Bahag Moussa. Il a été tué cette semaine lors d'une opération de la force Barkhane dans le nord-est du Mali.
Et puis aux États-Unis, Donald Trump refuse toujours de reconnaître le résultat de l'élection présidentielle, mais aussi de s'exprimer publiquement. Le président d'exercice pourrait toutefois se rendre à une manifestation de ses partisans ce week-end à Washington.
Le journal en français facile.
Depuis un peu plus d'une heure maintenant, les Grecs sont obligés de rester chez eux, et cela jusqu'à 5 heures, heure locale demain matin.
Pour faire face à la montée des cas de Covid-19, le gouvernement grec a décrété un couvre-feu nocturne dans le pays et qui devrait durer au moins jusqu'à la fin du mois. Cette nouvelle mesure vient s'ajouter au reconfinement qui a été instauré en Grèce la semaine dernière, car la situation se dégrade dans le pays, notamment à Thessalonique, dans le nord, où les hôpitaux sont presque saturés, presque remplis de malades. À Athènes, Joël Brunner.
Stéphania Kotsira, 34 ans, vient de quitter son bureau situé au centre de la capitale grecque. Le couvre-feu qui doit débuter dans quelques heures, elle y est tout à fait favorable.
Je pense que ce couvre-feu est une mesure nécessaire parce que dans notre pays, il y a maintenant un énorme problème avec les hôpitaux. Depuis des années, nous manquons de lits en soins intensifs, donc puisque le nombre de cas de personnes positives au Covid augmente, nous devons prendre davantage de mesures. J'ai même l'impression qu'on prend celle-ci déjà un peu tard.
En moins de 15 jours en Grèce, cafés et restaurants ont d'abord été fermés. Un nouveau confinement a ensuite été décrété et une nouvelle mesure, le couvre-feu, est maintenant instauré.
Je crois que prendre trois séries de mesures différentes dans un laps de temps si court a été très déroutant pour tout le monde. Au début, ce qui était permis et interdit n'était pas clair du tout. Cela explique sans doute en partie que ce confinement est différent du premier, avec beaucoup plus de gens dans la rue. Cela me semble bien plus dangereux parce que les gens ne croient plus en l'importance de toutes ces mesures.
Ces derniers jours, les mesures restrictives s'empilent en effet, sans que le gouvernement grec ne donne le sentiment de faire autre chose que de naviguer à vue face au Covid. Joël Brunner, Athènes RFI.
De son côté, l'Italie a enregistré aujourd'hui un nombre record de contaminations depuis le début de l'épidémie, près de 41 000. Deux régions, la Toscane et la Campanie, vont basculer en zone rouge et donc être soumises à un confinement partiel. Plus de 20 000 cas ont également été détectés ces dernières 24 heures au Royaume-Uni, en Espagne et en France.
La France qui a commémoré ce vendredi les 5 ans des attentats ayant fait 130 morts et près de 400 blessés à Paris et à Saint-Denis.
Des cérémonies ont eu lieu, mais avec un nombre très réduit de participants en raison des consignes sanitaires. La justice, de son côté, se prépare pour le procès gigantesque devant s'ouvrir en septembre 2021. 6 mois d'audience sont prévus, mais un seul des auteurs des attaques sera présent. Tous les autres ont trouvé la mort lors des attentats. Les précisions de Marie Casadebé.
20 personnes sont renvoyées devant la cour d'assises pour s'expliquer sur cette nuit d'horreur, mais seuls 14 d'entre eux devraient être présents et il ne s'agira pas des principaux organisateurs. Les autres mis en accusation sont visés par un mandat d'arrêt mais sont présumés morts en Syrie ou en Irak. C'est le cas de celui qui est considéré comme le cerveau de cette série d'attentats préparés de Syrie. Oussama Attar aurait été tué là-bas par une frappe aérienne en 2017. Même chose pour les frères Klein, des Français qui apparaissent dans le message de revendication. Du commando qui a semé la terreur ce 13 novembre, il ne reste plus que le franco-belge Salah Abdeslam. Il est accusé d'avoir déposé 3 kamikazes au Stade de France avant d'abandonner une ceinture explosive à Paris. Il avait été arrêté quelques mois plus tard en Belgique, où il a été condamné à 20 ans de prison pour un autre attentat qui avait fait 32 morts à Bruxelles. Plusieurs membres de cette même cellule djihadiste franco-belge seront jugés. Même s'ils n'étaient pas présents à Paris le 13 novembre, ils sont soupçonnés d'avoir joué un rôle de soutien logistique et financier auprès du commando, location de véhicules, de planques, transport en région parisienne ou encore approvisionnement en armes.
Marie Cazat-Debé. Et puis, l'actualité, c'est également...
En France, la ministre des Armées, Florence Parly, qui a confirmé ce matin la mort du chef militaire de la branche sahélienne d'Al-Qaïda, le malien Baag Moussa, ancien officier de l'armée malienne. Il était un lieutenant d'Iyad Agrali, le chef Touareg du Rassemblement pour la victoire de l'islam et des musulmans, nébuleuse terroriste liée à ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Les précisions avec Franck Alexandre.
C'est au crépuscule ce mardi 10 novembre que l'assaut a été donné à 140 km au nord de Ménaka. Le pick-up dans lequel avait pris place Baag Moussa était observé de près par au moins 2 drones. Vers 18h, 4 hélicoptères, 2 de manœuvre et 2 d'attaque de la force Barkhane ont d'abord tenté de stopper le véhicule. Des tirs de sommation sans succès puisque les 5 occupants du pick-up équipés de mitrailleuses et d'armes légères ont alors vivement riposté. Dans les minutes qui ont suivi, annonce l'état-major des armées, les hélicoptères de manœuvre ont déposé une quinzaine de commandos au sol, une action fugace, indique-t-on, car en moins d'un quart d'heure, tous les occupants du pick-up étaient neutralisés. Pas de blessés côté français. Les soldats de la force Barkhane ont ensuite passé au peigne fin le véhicule à la recherche de moyens de communication pouvant être exploités. Concernant les dépouilles, tout a été fait conformément au droit international humanitaire, insiste l'état-major, sans préciser s'ils ont été enterrés sur place. Si les FAMA n'étaient pas associés, ils étaient prévenus de cette opération. Opération qui n'est pas d'opportunité, insiste l'état-major, assurant qu'elle était préparée de longue date, avec pour objectif de viser les cadres du Ervim.
Franck Alexandre, en Éthiopie, inquiétude autour de la situation dans la région du Tigré, où l'armée mène une intervention militaire depuis 10 jours. L'ONU a demandé aujourd'hui une enquête indépendante sur de possibles crimes de guerre. Les États-Unis appellent de leur côté à une désescalade immédiate des combats, un arrêt des combats après que des massacres de civils ont été commis, selon Washington.
Les États-Unis où Donald Trump doit prendre la parole dans une heure.
Le président américain devrait s'exprimer sur le vaccin annoncé contre le Covid-19, mais toujours pas sur le résultat de l'élection présidentielle. Donald Trump refuse toujours de reconnaître sa défaite et continue d'agiter ses partisans en évoquant des fraudes sur son fil Twitter. Mais publiquement, son silence dure depuis ses propos controversée du 5 novembre. La correspondance à Washington de notre envoyée spéciale permanente, Anne Corpé.
C'est un silence tout à fait inhabituel de la part d'un président qui ne cesse d'habitude d'intervenir devant les caméras de télévision. Donald Trump ne communique plus que sur Twitter, où il relaye toutes sortes de théories fumeuses sur des fraudes qui n'ont jamais existé. Selon le New York Times, le président a même interrogé son entourage sur la possibilité de faire désigner les grands électeurs par les parlements des États afin de bénéficier de l'appui des législatures républicaines et de contourner le vote populaire. C'est légalement envisageable, mais cela reviendrait à un coup de force, même ses plus fidèles alliés l'en ont dissuadé. Le refus du président à accepter sa défaite peut s'expliquer par une volonté de maintenir sa base mobilisée. Il y a des élections sénatoriales en Géorgie début janvier, cruciales pour que les républicains conservent leur majorité. Selon certains de ses proches, Donald Trump a bien compris qu'il devra quitter la Maison-Blanche le 20 janvier. Il envisage de lancer sa propre chaîne de télévision sur Internet et même de se représenter à la présidence en 2024. Anne Corpé, Washington, RFI.
Donald Trump pourrait par ailleurs profiter des manifestations de ses partisans prévues ce week-end à Washington pour aller à la rencontre de ses supporters. Des rassemblements à l'issue incertaine alors que la plupart des médias américains annoncent ce soir la fin des décomptes dans les États clés d'Arizona et de Géorgie qui serait remporté comme prévu par Joe Biden, donnant 306 grands électeurs aux candidats démocrates, alors que 270 sont nécessaires pour obtenir la confirmation au poste de président. Et c'est la fin de ce journal en français facile. Merci à vous, Sylvie Berruet.
Avec plaisir.
D'avoir été à mes côtés. Merci à vous, auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés. Excellente soirée à l'écoute de RFI.